Ce soir, il va être bon, je l'espère, de se rappeler quelques évidences. Peut-être que lors de la diffusion précédente de ce Very Good Trip, vous aviez mieux à faire. Bon, on va pas vérifier votre alibi. Je vous invite à revivre la série que j'ai consacrée à toute l'aventure du légendaire festival de Woodstock en 1969.
Dans l'épisode précédent,
de puissantes rafales de vent ont violemment claqué la bâche, et puis c'est la tempête.
La scène était en métal, il y avait des gens derrière les amplis qui criaient « La scène s'effondre ! La scène s'effondre !» Nous, on était nuls et on n'avait qu'une envie, c'était de se barrer de là.
T'inquiète pas, John, on est avec toi ! Fogerty aura plus tard ce commentaire. Tout le reste du concert, eh bien j'ai joué pour ce gars.
Ladies and gentlemen, if you please.
France Inter et la RTBF. Very Good Trip.
How are you out there? Are you okay?
Woodstock 1969.
We must be in heaven, man.
Mishka Assayas.
Ladies and gentlemen, if you please, please come down.
Il faut descendre.
There are people sitting behind you.
Il y a des gens assis derrière vous qui malheureusement ne peuvent pas voir.
Who unfortunately cannot see. It would be greatly appreciated.
Descendez,
if you please
s'il vous plaît.
Come down.
Dimanche 17 août 1969, l'aube ne s'est pas encore levée et la musique ne s'est pas interrompue. Une troupe endiablée, multiraciale, emmenée par une sorte de messie sauvage, Sly and the Family Stone, a réveillé les morts de Woodstock. Elle mêle, je vous l'ai raconté dans l'épisode précédent, soul, jazz et rock psychédélique dans un esprit de déchaînement et de délivrance collective. Déjà secoué par la découverte du groupe Santana, des centaines de milliers de personnes assistent en pleine nuit à la naissance d'une nouvelle musique, un funk psychédélique, moderne, qui sera celui du groupe Funkadelic dans les années 70 et dont s'emparera Prince une dizaine d'années plus tard. Une transe qui entraîne le public dans une frénésie collective qui ne sera pas du goût de tout le monde. Après tout, les hippies, qu'on n'appelle pas encore baba cool, ce terme un peu dédaigneux qu'on commencera à utiliser au milieu des années 70 pour désigner les attardés du mouvement, eh bien les hippies sont censés s'adonner au mieux à la méditation collective, pacifique, enfin au pire endormie. Les drogues qu'ils prennent en tout cas sont censées les faire partir dans des délires cosmiques. Pas dans un paroxysme d'exaltation débridée capable de les conduire aux extrêmes. Faisons un petit saut en avant dans la patrimoniale émission de France Inter Le Masque et la Plume, qui existait déjà en 1970, on s'affronte à propos du film documentaire long de 3h30 consacré au festival de Woodstock. 3h30 de cinéma montré au Festival de Cannes avant de sortir en salle à la rentrée 1970.
Nous sortons d'un film qui s'appelle Woodstock.
Il y arrivera à le dire, vous avez le dire.
Non, nous en sortons. Nous en sortons aveugles, nous en sortons
assourdis,
oui. Nous en sortons complètement abasourdis, nous en sortons encore plus idiots.
Mais comment on s'est dit après ça?
Nous étions avant d'y entrer.
Bon, c'est un film.
Mais c'est quand même une dimension, je n'avais jamais vu ça dans ma vie. Et j'ai l'impression que ça va être très important sur un plan, non pas cinéma, mais sur un plan sensibilité. Oui. Que nous découvrons une espèce d'univers dément, et qui est aussi un univers un peu fasciste, il faut le reconnaître, quoi.
Le critique de cinéma Jean-Louis Bory, enthousiasmé, va ferrailler avec son confrère Michel Aubryant, qui, le mot est faible, est décontenancé, et presque même envahi par un sentiment d'horreur et d'effroi devant la façon dont Sly and the Family Stone ont soulevé la foule de Woodstock.
Quand ce groupe noir chante ailleurs et que toutes les 500 000 types qui sont là lèvent la main et font ailleurs, ailleurs, on a l'impression d'être au congrès de Nuremberg.
Bon. Mais ah si oui, je... bah, congrès de Nuremberg tout de même, mais où les gens sont à poil et...
On a quand même plus entendu. C'est le film qu'on a fait de la grande manifestation hippie de Woodstock qui s'est passée l'été dernier près de New York.
Hein. Merci Nicolas Drabout.
500 000 hippies étaient rassemblés, voilà.
Very Good Trip. Woodstock 1969 sur France Inter et la RTBF.
Let's go.
you.
La nuit est encore noire, mais plus personne ne dort dans le pâturage boueux attenant à la ferme de Max Yasger. Sly and the Family Stone ont envoyé une décharge électrique, une onde de folie a parcouru le public et personne n'a envie de se rendormir. Il est 5h du matin, c'est le moment où l'un des groupes les plus attendus du festival de Woodstock, les Who, va arriver. Captain Walk didn't come home, his unborn child will never know him. Believe him, miss him with a number of men, don't expect to see him again. Leur album, Tommy, sorti juste 3 mois avant, connaît un immense succès aux États-Unis. 200 000 exemplaires vendus rien que les 2 premières semaines. Tommy a été célébré par la critique comme un événement. C'est le premier disque de rock à se présenter comme un opéra. Enfin, pas tout à fait le premier pour être strict, mais en tout cas le premier à avoir cet impact. Un double album, une œuvre qui se veut impérissable, le chef-d'œuvre auquel tous les autres vont devoir désormais se confronter. Et puis parallèlement, les Who ont une réputation de grande violence sur scène, une violence d'un genre particulier, théâtral, proche en fait de certaines performances de l'art contemporain. Et oui, il faut le rappeler, il existait alors au milieu des années 60 un courant qu'on appelait l'art autodestructeur. En 66, il s'est tenu à Londres un certain Destruction in Art Symposium, un symposium de la destruction dans l'art, où des performeurs se sont livrés à des happenings. L'un a mis le feu à des piles de livres de droit devant le British Museum, l'autre a aspergé d'acide chlorhydrique des tissus en nylon pour protester contre l'énergie nucléaire. Et Pete Townshend a voulu entraîner les Who dans cette voie. Il est ainsi le premier guitariste de rock à casser et détruire sa guitare sur scène à la fin de ses concerts. Quant au batteur très allumé Keith Moon, il a quant à lui, lors d'un passage sur une chaîne télévisée américaine, carrément installé des explosifs dans sa grosse caisse, ce qui lui a d'ailleurs causé une sérieuse coupure à la jambe. De plus, le bruit de la déflagration a été tellement fort que Pete Townshend en est resté longtemps à moitié sourd d'une oreille. Il y a donc à Woodstock toutes les raisons de se méfier des Who. D'autant que dès son arrivée sur scène, Pete Townshend envoie un coup de pied au réalisateur chargé de tourner les images d'un documentaire, Michael Wadley. Il ne veut de personne sur scène. Tous les caméramans, dont un jeune Martin Scorsese, partent s'installer intimidés sur le rebord. L'aube va bientôt pointer et les Who attaquent les chansons de Tommy. Deaf, dumb,
strange as it seems, his musical dreams ain't quite so bad. Jack.
Very Good Trip. Woodstock 1969 sur France Inter et la RTBF. Mishka Assayas.
Un medley de deux chansons de l'album Tommy, Amazing Journey et Sparks, exécuté par les Who. Alors la version que vous venez d'entendre est celle de l'album Live at Leeds, paru en 70, d'une meilleure qualité sonore que celle de l'enregistrement de Woodstock. Enfin, c'est le même moment. Qui donne une meilleure idée de la folle énergie scénique de ce groupe. Alors, comme je vous disais, il y avait toutes les raisons de se méfier des Who. Roger Daltrey, vêtu d'une veste à longues franges ouvertes sur son torse nu, fait tournoyer le micro et semble traversé par une forme d'extase. Pete Townshend exécute ses légendaires moulinets à la guitare dans une sorte de transe. Et Keith Moon, le batteur, fait ses habituelles grimaces de dément derrière ses fûts qu'il fait, pour ainsi dire, virevolter grâce à son jeu polyrythmique qui doit beaucoup au jazz. Et en contrepoint, le bassiste John Entwistle, impassible, l'air froid et mauvais, qui semble attendre le moment d'exécuter un contrat comme un tueur à gages. Et c'est là que déboule sur scène la mauvaise personne, au mauvais moment, Abby Hoffman. Ce sera d'ailleurs le seul moment de violence à Woodstock, et il s'en faudra de peu que les choses ne dégénèrent gravement.
Who's facing 10 fucking years for two joints of marijuana while we're all sitting here digging rock music?
Qui est ce chevelu? Eh bien, Abby Hoffman est un agitateur, spécialiste des provocations en tout genre envers la police, la justice et toutes les formes d'autorité et d'institutions en général. Il a, parmi de nombreux méfaits, lâché une pluie de faux billets de banque dans la corbeille de la bourse de New York, à Wall Street, pour le plaisir de voir les agents de change et employés se battre pour les ramasser. Il a créé avec Jerry Rubin le mouvement dit des hippies, c'est-à-dire des hippies qui se voulaient anarchistes et révolutionnaires. Pete Townshend et les Who, eux, ils n'en savent rien. Ils voient juste un type qui s'empare sauvagement d'un micro pour haranguer la foule alors que les Who sont en train de transmettre au public une énergie presque surhumaine, hypnotisant la foule. Quel tas de conneries, hurle Abby Hoffman. En ce moment, il y a John Sinclair qui est en train de pourrir en prison. Il faut expliquer que John Sinclair, c'est un militant révolutionnaire de Détroit qui a été piégé par un agent du FBI qui lui a vendu 2 cigarettes de marijuana. Et rien que pour ça, Sinclair a été condamné à 2 ans d'incarcération ferme. Abby Hoffman n'a pas le temps de finir sa phrase. Townshend fond sur lui en hurlant « Fuck off! Fuck off my fucking stage !» Vêtu d'une espèce de combinaison de décontamination nucléaire tout en blanc, il ressemble à un karatéka. Et avec le manche de sa guitare, il assène à Hoffman un coup de guitare en pleine nuque. Hoffman tombe à terre, il se relève et il quitte la scène en titubant. Avant de se remettre à jouer, Pete Townshend prend le micro. Il a des poignards dans les yeux. « The next fucking person that walks across this stage is gonna get fucking killed, alright ?» C'est-à-dire la prochaine putain de personne qui marche sur cette scène, croyez-moi, bordel, il va se faire massacrer, ok ? Il y a un soleil rouge, c'est 3 jours de paix et d'amour, je le rappelle. Un soleil rouge pointe à l'horizon, Roger Daltrey ouvre grand les bras, hein, prolongé par les très longues franges pendant de son gilet ouvert sur son poitrail nu. Il a l'air d'un ange dans la lumière de l'aube et il chante « See me, feel me, touch me, heal me ». La violence est oubliée, c'est un moment de grâce. Et Townshend, à la fin, ne cassera pas sa guitare, il se contentera de la lancer dans la foule.
Yeah. because you head around generation. Fancy you look awful cold. Yeah, we might die before I get old. Don't you all fade away. Hey, don't try and dig what we all say. I'm not trying to cause a bloody big sensation. She's talking about my generation. My generation. My I'll fade away.
Talking about my generation.
Yeah, don't try to dig what we
talking
all
about
say.
My generation.
I'm trying to cause a bloody big sensation. Talking about my generation.
Dimanche 17 août 1969, au matin, le soleil se lève sur un spectacle de désolation, des hippies enlisés dans une mer de boue, titre dans son édition de dimanche matin, le New York Sunday News. On attend encore Jefferson Airplane. Si tout s'était passé comme prévu, le passage de ce groupe aurait dû marquer le sommet du festival. On en a parlé d'ailleurs dans le premier épisode de notre série. Jefferson Airplane, vous savez, c'est ce groupe de San Francisco qui a popularisé dans tout le pays la révolution hippie et psychédélique. D'ailleurs, sans ces musiciens, un événement tel que Woodstock aurait peut-être même été inimaginable. Pourtant, la consécration que le festival aurait dû offrir à Jefferson Airplane n'aura pas lieu. Il est en effet 7h du matin quand le groupe arrive sur scène. Déjà, il est difficile d'imaginer un pire horaire. Sly and the Family Stone ont électrisé la foule qui s'est mise debout et a dansé toute la nuit. Puis, les Who l'ont élevé vers une sorte d'extase. Et à l'aube, eh bien, la plupart n'ont qu'une envie, dormir. Les musiciens de Jefferson Airplane, en plus, ont veillé et fait la fête toute la nuit. Et, il faut l'avouer, ils ne sont pas au meilleur de leur forme. La chanteuse Grace Slick commence par annoncer au public qu'après les groupes lourds, heavy, qui ont précédé, eh bien eux se préparent à offrir, je cite, une musique matinale frénétique pour fêter une nouvelle aube. Bon, ce ne sera pas tout à fait le cas. Ils commencent par leur nouvel hymne, Volunteers, chanté par Marty Balin, en phase avec l'état d'esprit révolutionnaire qui parcourt alors une certaine jeunesse dans le monde occidental. Mais la musique ne parvient pas à soulever la foule, ni au propre, ni au figuré. D'une certaine façon, Jefferson Airplane, qui ne survivra pas longtemps et se scindra quelques années plus tard, finit de jouer à Woodstock son rôle historique. Grace Slick et ses compagnons contemplent avec émerveillement cette masse de freaks qui leur paraît multipliée à l'infini, ces frères et sœurs californiens qui ont accompagné les happenings du groupe à San Francisco. L'évangile s'est propagé, la cause hippie semble l'avoir emporté. Woodstock n'était pas très bien organisé, se souviendra Grace Slick. Mais ce qui est unique, c'est qu'il y avait là 500 000 personnes et qu'ils ne se sont pas entretués à coups de couteau.
Look what's happening.
Et voilà, c'est le matin du dimanche 17 août 69, la musique se tait. À mesure que le soleil s'élève, la chaleur se fait de plus en plus lourde. Impossible de trouver de l'ombre, alors on part chercher la fraîcheur dans le bois environnant. À proximité, s'étend aussi un grand lac. Les organisateurs du festival de Woodstock ont payé un droit d'accès à ses propriétaires pour y puiser l'eau nécessaire et accessoirement en offrir la jouissance aux festivaliers souhaitant s'y rafraîchir. Le photographe Barry Levine, qui se trouve là, et un ami à lui, ont cheminé jusqu'aux berges. Ils sont évidemment pas les seuls. Des parents mettent leurs enfants tout nus et les baignent. Quant aux autres, ils hésitent, ils s'observent, ils se sourient. Et puis Levine et son ami se lancent, ils se déshabillent entièrement et plongent tout nus, donnant ainsi le signal aux autres. Nulle honte, nulle gêne n'entrave plus personne. Il y a une sorte d'émerveillement enfantin qui se répand. Et ce bonheur candide, spontanément partagé par toutes et tous, semble résonner sur les rives du lac comme une mélodie céleste. On est, croirait-on, à l'aube d'une nouvelle innocence. Un autre photographe présent, Roland Sherman, prend les corps ainsi libérés. Il tentera ensuite naïvement de vendre ses photos au magazine Playboy, et oui, s'imaginant que ces clichés de nudité féminine intéresseront la rédaction. Mais celle-ci n'en veut pas, pourquoi, je cite, « pas assez de cul, pas assez de nichons ». Même la sexualité sur le site du festival prend une forme d'innocence sauvage. Partout, des couples font spontanément l'amour, des inconnus s'embrassent, des chaînes érotiques imprévues se forment. La nation de Woodstock, entre guillemets, s'engage à tâtons, dans la naissance d'une nouvelle humanité où ces jeunes gens, pourtant le fruit d'une civilisation de plus en plus technique et matérialiste, s'engagent dans la voie d'un primitivisme libérateur.
Ladies and gentlemen, Mr. Joe Cocker, let's go for Sunday.
Yes, well, good afternoon. Right. Feeling all right. Left on my own lawn,
Cet après-midi du dimanche 17 août, la musique reprendra, et la pluie aussi, avec un inconnu qui, pour beaucoup, sera la révélation du festival de Woodstock, Joe Cocker, que nous retrouverons dans le prochain épisode.
You got an answer to us? Right. Do what you want. Get your own gazelle. This is called Let's Get Stoned. You know my baby, she won't let me in. I've got a few men, I'm gonna buy myself a little lift.
Merci beaucoup à Marie-Hélène Fauquet qui a réalisé avec ferveur cette émission. Merci à Paul Percheron et à Ludovic Castro à la technique. Et merci beaucoup à Mathilde Verfailly pour son soutien fidèle. Et je vous dis à la prochaine.
Get yourself a taste. Oh, don't you blow your cool. No, no. And stop messing up the man's play. I say that you know all my friends. And take yourself a nip now and then. Oh, don't fall down. I spent the last 2 weeks of my life in New York City. I was living on 8th Avenue in a crazy place called Lowe's Midtown Motor Inn. Oh, I thought I was going insane both day and night. Little wall, sat on my little bed in my spaceship. I'm listening to my radio. And a man keeps telling me all about oh, it's just 350,000 little people all hanging out in one big piece of ground, son. Whoa, and I thought to myself, it's gonna come true someday. Hey, we get a little nearer that land both day and night. So whether you turn around to your brother, your sister, your mother, your police officer, anybody else you want to talk to, or you gotta say to your friend, let's go, let's go, yes, sir.
Yeah, let's all go and get strong.
Vertigo Trip sur France Inter.
This is the Hitchcock Railway.
Voilà, fin de l'épisode de ce soir. C'est tout pour cette semaine. On se retrouvera bien sûr lundi prochain pour la suite du feuilleton.